grinçait sur le fléau de la balance, 50 kilos, on disait. Le papé resta un moment avant de reconnaître tout cela. On ne les voyait d'habitude courabilaises, et alors, dessous les vestes et les pantalons on peut cacher bien des choses, des hernies qui font le champignon sur le ventre, des épaules toutes cassées dans le milieu, des poitrines courbées en dedans, des jambes torses, des bras pliés, des écrouelles, des croûtes de mâle. Celui qui avait les fesses toutes rouges de sang, c'était le notaire, il avait gardé ses lorgnons, il essaya de rire. « Alors vous aussi, grand-père, ça viendra, » dit le papé. Le maire entra, il avait les yeux hors de la tête et son cou gonflé débordait le faux col de celluloïde. Il entraîna le papé dans un coin. « Je sais, Chabran, » il dit, « tu dois venir pour les chèvres. Tu es déjà le troisième. Non, il faut rien donner. Non, c'est pas régulier, c'est un de Marseille qui achète les chèvres pour les Indiens, mais à son compte, pas pour l'État. Alors, pour aller plus vite, il a inventé ça à la réquisition. » Il donne 100 sous aux gendarmes, non ne donne rien, ne donnez rien, tu aurais dû prévenir Baptistin, il a dû en prendre d'autres s'il ne m'a pas pris. Tu veux que je te le dise, dit le maire en abaissant ses bras découragés, je ne sais plus où j'en suis, j'ai la tête folle, d'ici de là au four au moulin, être partout tout faire penser à tout, c'est pas mon métier je ne sais plus où j'en suis, aujourd'hui je devrais être à la terre d'Anchois RC, et puis je suis là tu vois. Le papé regarda les hommes nus. En parlant de ça, il dit « J'ai vu la miette en bas, et alors son fils et alors on l'a pris, tu as pas dit qu'il tombait du mal de la terre ? Ah je l'ai dit, l'autre m'est venu dessus comme un lion, j'ai des ordres moi monsieur le maire il m'a gueulé, j'ai des ordres, si on passe ses visites c'est pour avoir des hommes, combien il pèse 60 kilos ? Bon, la taille et le poids. Je connais que ça, s'il tombe on verra. » « Allez, au revoir, » dit le maire. Le papé s'enfonça le chapeau sur les yeux, il poussa un soupir. « Qu'est-ce que tu as ?»« Rien, » dit le papé. Il passa devant la tante Mie sans lui parler. Elle était toujours là, bien sage, avec ses mains croisées sous le tablier. Alors tous, même celui-là, on voulait donc l'assécher la source des hommes. Le soldat sortit de cette salle d'attente des troisièmes qui n'était pas éclairée. Il s'approcha de la sentinelle, lui, il lui dit. Avant de répondre, le planton regarda dans le bureau du commissaire de gare. L'autre, là-bas dedans, avait déboutonné sa tunique du haut en bas, même le col. Il serrait, contre le bord de la table, son gros ventre en chemise fine. Sur le buvard de son sous-main il dessinait soigneusement une rosace au crayon rouge et bleu. « Quoi ?» dit la sentinelle. « Tu as ton bidon, pendu au lit. » « Parce que voilà, » dit le soldat. Il y a Gustave qui a trouvé un tonneau de Bordeaux au fond des voies vers le disque, il y a mis un coup de baïonnette, on est là-bas à tenir le trou avec le doigt, ça pisse d'un mètre, on a rempli tous les seaux les plats, je te vas remplir le bidon. Toute la carapace vide de la gare chantait, sous le vent de la nuit, une chanson d'aile de fer. De longs trains fatigués haletaient là-bas devant, sur des voies de garage. Dans les wagons, des bœufs gémissaient une détresse humaine vers les libres prairies pleines de lune. Un épais train d'hommes dormait sans bruit à côté d'une longue chenille de plateforme tout hérissée de canons. Deux hommes d'équipe se disputaient près du levier à disque. « Ouvert, je te dis, fermé. »« Je te dis, le 504 est à l'heure. » »« Ouvert, ils avaient tous les deux la main sur la poignée du levier. » Maintenant, le commissaire de gare tapait sur le rebord de la table avec son coupe-papier. Il chantonnait, tantôt la tête en bas, tantôt la tête en l'air, devant sa rosace toute ronde, sans pied ni tête bien dessinée. Il but à un bidon de 2 litres, puis, avec un large sourire, il regarda les filaments de sa lampe électrique. Le train d'homme siffla longuement. Il partait. Dès le seuil de ce village on marchait sur les fascines qui bouchaient un trou de la route et s'ajoutaient tout rouge autour du soulier. Les ruisseaux coulaient pleins de sang. Des troupes de chiens, la queue basse, l'œil mauvais, suivaient dans l'air épais les serpentements de l'odeur de mort. Dans l'ombre des granges ouvertes, de grandes formes blanches aux bras courts étaient crucifiées contre les murs. C'étaient des corps massifs comme des pins, fendus au milieu comme des pins, mais d'une large fente, béante et rouge. C'était le village de la boucherie. Les gros murs de pierre craquaient doucement de tous ces bœufs éventrés et pendus à plein crochet par les jarrets. Un homme passait avec un seau à la main. Il faisait équilibre de son bras gauche et de toute sa tête à un grand seau plein à ras-bord de sang caillé et de tripes. Un autre marchait derrière et il tenait tout le large de la rue. « Pas si vite, toi du seau !» Sur une claie, il portait un grand quartier de bœuf arraché tout saignant à la bête morte. On entendait dans les cours des coups de marteau qui sonnaient sourds, comme dans de la peau et du poil. Le bœuf tombait. Les sabots raclaient les pavés de la cour. On gonflait un ventre de mouton avec un gros soufflet. On tapait sur le ventre gonflé avec une tringle de fer.